Bonjour à tous et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 mars, dernière émission de la semaine. Et au menu aujourd'hui, on va parler de ces différentes initiatives mises en place dans le département pour aider la population ukrainienne, avec notamment une collecte organisée hier après-midi à Château-Gontier. On va aussi parler de ce festival Avant que ça pète, un festival organisé par le collectif Sortons du Nucléaire 53, qui vont nous expliquer à la fois le programme et leur engagement. Et puis comme chaque vendredi, vous en avez l'habitude maintenant, notre chronique sport avec Steven qui va nous parler aujourd'hui des conséquences de la guerre en Ukraine justement sur les compétitions sportives et sur le monde du sport de manière générale. Et puis vendredi, qui dit vendredi, dit cinquième et dernier jour de notre dernier épisode. Les derniers jours de notre feuilleton autour de l'entreprise d'insertion en vie mène, où on va justement plus s'intéresser encore plus à ce volet insertion de l'entreprise avec le profil des personnes accompagnées et ce que ça leur permet pour la suite. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité. On pourra dire adieu au pass vaccinal et au masque dès le 14 mars, avec quelques exceptions, puisque le pass sanitaire sera toujours demandé dans les établissements de santé, tout comme le masque, qui sera aussi obligatoire dans les transports en commun. Une embellie qui se ressent également au centre hospitalier du Haut-Anjou, où le plan blanc est levé et les visites à nouveau autorisées à l'hôpital de Château-Gontier et dans les EHPAD de la ville. Le centre de vaccination situé à l'espace Saint-Fiacre fermera ses portes, lui, le soir du 25 mars. Un éleveur mayennais récompensé avec sa vache miraculée. Et oui, c'est son nom. David Cadet est éleveur à Argenton-Notre-Dame et c'est aussi le président de l'AOP Maine-Anjou. Il a été récompensé au Salon de l'Agriculture à Paris parmi les viandes de bœuf label rouge, catégorie rouge des prix. Et puis ça y est, on connaît les quatre derniers noms du festival au foin de la rue. Il s'agit de Bagarre, General Electrics, Super Parquet et Lalalar qui rejoignent la programmation qui est désormais complète. Le festival se tiendra, on rappelle, les 1er et 2 juillet prochains à Saint-Denis-de-Gâtie, avec notamment Roméo Elvis, La Femme ou Gaël Faye. Et puis coup d'envoi aujourd'hui de la collecte nationale des Restos du Cœur. Jusqu'à dimanche, dans certains supermarchés, vous pourrez faire des dons de denrées alimentaires non périssables et de produits d'hygiène. Objectif cette année au niveau national, dépasser les 9000 tonnes de denrées et produits récoltés. Et si vous aidiez le Refuge de l'Arche dans ses actions, à Château-Gontier, le CEPAN, le Club d'études et de protection des animaux et de la nature, compte notamment de nombreux bénévoles qui assurent aussi bien des missions d'accueil, de distribution de flyers, de tenues de stand, d'animation, de bricolage ou de jardinage, que ce soit au refuge ou au centre de sauvegarde. Et si vous avez envie de les rejoindre, une réunion d'information est organisée demain de 10h à midi au Refuge de l'Arche. En football, Laval reçoit Créteil demain. Les Tangos devront faire sans Maxence Carlier, toujours blessé, ni Kevin Perrault, qui a été suspendu dimanche dernier lors du derby au Mans. Le match est prévu donc demain soir à 19h au stade Francis Lebasserre. Et puis je vous le disais en tout début de cette émission, la solidarité envers les Ukrainiens se met en place. Une collecte a eu lieu notamment hier au Carrefour Market de Château-Gontier à l'initiative d'une habitante de Chemazé, Déborah Bélanger. Et tout l'après-midi, aidée de deux bénévoles, elle a récolté des produits d'hygiène pour les bébés, des produits pour les bébés en dehors aussi, au niveau de la nourriture, des produits de soins aussi comme des compresses. Et une action qui s'est faite naturellement pour Déborah et Yvonique, qui ne voulaient surtout pas rester les bras croisés.
On est impuissants. On ne peut pas partir, on a une vie à côté. Beaucoup d'entre nous, s'ils pouvaient, partiraient pour aider. D'autres ne peuvent juste que donner. Ce qu'on peut faire, ça ne se juge pas, du moment qu'on fait quelque chose. On avait peur qu'il n'y ait rien, puis on s'est dit, s'il n'y a rien, ben, tant pis. Et on est un petit peu débordés par tous ces dons, mais on en est heureux. Je vous assure que vraiment, ils partiront. Parce qu'on pense que ça va faire effet boule de neige.
Là, ce qu'on voit, c'est beaucoup, beaucoup pour enfants. Donc c'est bien, on a de l'alimentaire pour enfants. On a beaucoup de couches, on a beaucoup de tout ce qui est hygiène du corporel. Depuis que ça a démarré il y a une semaine, je me posais la question. Moi, je suis un ancien sapeur-pompier. Donc aider et faire quelque chose pour l'autre. Et j'attendais un peu le mouvement au niveau de la Mayenne. Et ce matin, au hasard, on a découvert le site à Dorothée. Donc j'ai pris contact aussitôt et je lui ai dit que moi j'étais disponible, que j'avais ce qu'il fallait pour transporter. Et donc du coup, on s'est appelé et voilà, ça s'est fait tout seul. J'ai deux petites jumelles aujourd'hui qui ont 8 ans et quand je vois les images d'enfants, c'est pas possible. Ça aurait pu être nous. Heureusement, on fait partie de l'Union européenne, donc du coup, on a un peu. Mais il ne faut pas se relâcher, il faut penser aux enfants. Et moi, les enfants, on ne touche pas.
Un message partagé aussi par les donneurs sud-mayennais de passage pour faire leurs courses au magasin ou venus spécialement pour l'occasion, comme Françoise et Clara.
J'ai essentiellement pris des produits d'hygiène pour les enfants, pour les femmes, pour la toilette de toute personne. Puis nous, on est ouvert à notre maison s'il y a besoin aussi d'accueillir une famille. On s'est dit, on a une grande maison disponible, 3 chambres avec une salle de bain indépendante. Donc on est prêt à accueillir une famille. Ça a été vraiment spontané, on y a pensé tous les deux et on s'est dit, s'il y a besoin, on fonce. Hein, parce que nous, on peut avoir besoin un jour aussi. Et puis, ça fait mal au cœur de savoir qu'il y a des familles qui sont sans rien du jour au lendemain comme ça. Enfin, c'est la solidarité. Dans ces cas-là, c'est important.
À notre niveau, on peut faire ça, quoi. Nous, on voit ça à la télé, mais ça peut être nous, quoi. Pouvoir faire quelque chose et dire, au moins, on a essayé de faire quelque chose. Ça fait peur, quoi. Ça fait pitié quand on voit tout ça. Porter notre petite pierre, si on peut aider. Je sais pas, moi, je disais, si jamais on a besoin d'héberger des gens, on peut. Pourquoi pas, quoi. Enfin, ça me touche tellement, leur situation, que... Si on peut les aider, oui. Puis en plus, c'est beaucoup de mamans avec les enfants. Enfin, faut qu'on se mette à leur place. On ferait quoi? C'est nos voisins, quelque part, un peu, hein, quand même.
Au total, entre 5 et 7 mètres cubes de dons ont été récoltés hier. Ils vont tous partir sur place pour l'Ukraine dès la semaine prochaine. Et puis d'autres initiatives se multiplient. Une grande collecte est organisée à Évron, au gymnase municipal, du lundi au vendredi de 15h à 20h et le samedi de 10h à 17h pour apporter des sacs de couchage, des vêtements, des produits d'hygiène, des couches, du matériel de secours. Et d'autres collectes aussi ont lieu, notamment à Laval, au gymnase Chamaret, ce vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. Puis du lundi au vendredi de 15h à 20h, à Ernée dès lundi sur le parking du collège Saint-Joseph, à Mayenne au 175 vieille route d'Ambrières, les lundis et mercredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à midi dès la semaine prochaine, à Parny-sur-Roc à la mairie pour le coup. À Congrier, vous pouvez vous rendre à l'entreprise Dirix du lundi au vendredi de 8h à midi et demi et de 13h30 à 18h. À Saint-Denis d'Anjou ce samedi au stade de 10h à midi et de mercredi, de 14h15 à 16h45. Et puis à Mélédumène, au 31 boulevard du collège, du lundi au vendredi, de 15h30 à 19h. Et évidemment, cette liste est non exhaustive. Un appel aux dons est aussi lancé à Château-Gontier pour venir en aide aux Ukrainiens réfugiés à Rabka, une ville jumelle de Château-Gontier. Vous pouvez déposer vos dons par chèque à l'attention du comité de jumelage à l'hôtel de ville. Et puis à Cossé-le-Vivien, un rassemblement est organisé demain matin à 11h30 sur le parvis de la mairie. Et une collecte de dons aura lieu en même temps entre 9h et midi dans la salle des associations. Et enfin, si vous souhaitez accueillir des familles ukrainiennes, vous pouvez vous signaler en appelant votre mairie ou votre centre social. On va parler d'un tout autre sujet d'ici quelques minutes de ce festival Avant que ça pète, donc festival organisé par le collectif Sortons du Nucléaire 53. Mais juste avant, on va écouter General Electric qui sera en concert le 1er juillet au fond de la rue avec Ray the Radio. Drum. C'était Raid the Radio de General Electric, que vous pourrez donc retrouver sur la scène du festival Au Foin de la Rue le vendredi 1er juillet à Saint-Denis-de-Gâtine. Et donc là, on va parler d'une date qui est bien plus proche dans le calendrier, puisque dès lundi commence le festival Avant que ça pète à Laval, organisé par le collectif Sortons du Nucléaire 53. C'est donc la 5e édition de l'événement qui a lieu habituellement en avril, mais là a été avancée dans l'année pour que ce débat sur le nucléaire ait lieu avant les présidentielles, selon les organisateurs, avec deux conférences organisées et une soirée festive et revendicative. Tous les détails donnés par les deux membres actifs du collectif.
Alors moi c'est Hélène Bironneau, je suis militante anti-nucléaire depuis très longtemps.
Moi c'est Olivier Pain, et en cherchant à en savoir plus sur le bien ou le mal fondé du nucléaire, je suis devenu militant anti-nucléaire.
Et là aussi depuis un certain nombre d'années.
Oui, depuis vraiment longtemps en fait. Hein, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est vraiment mensonge d'État, enfin etc. C'est révoltant en fait.
C'est un collectif qui s'appelle Sortons du Nucléaire. 53, donc on est raffilié ni à Sortir du Nucléaire, ni à Greenpeace, ni à rien. C'est un collectif informel.
Et qui s'est créé il y a déjà une quinzaine d'années. Quel est l'intérêt justement de pouvoir se regrouper en collectif? C'est de mener des actions aussi ou d'en rejoindre d'autres dans la région?
Oui, ça permet d'avoir plus d'informations en fait, vu que chacun peut en ramasser à droite et à gauche, et bien sûr se fédérer quand on fait un festival comme Avant que ça pète ou qu'il y a une manif organisée, voilà.
Le festival Avant que ça pète, justement, donc la 5e édition se tient là dans quelques jours, à partir du 7 mars. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur peut-être la première édition? Qu'est-ce qui vous a incité à créer ce festival-là à une date un peu charnière aussi?
Alors, on a fait notre première édition Avant que ça pète, c'était en 2016, donc. Pourquoi 2016? Parce que c'était les 30 ans de l'explosion de Tchernobyl. Et on a voulu marquer un peu le coup parce qu'on avait l'impression que la lutte anti-nucléaire était quelque chose qui était un peu en sommeil, qui, voilà, ça n'intéressait pas forcément les gens. Alors que nous, on voulait, enfin nous, notre mission en tant que militants anti-nucléaire, c'est clairement de... C'est un peu prétentieux de dire faire de l'éducation populaire, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'essayer d'expliquer aux gens pourquoi nous, on trouve que le nucléaire, c'est à la fois dangereux, inutile et surtout très cher. Et donc en 2016, c'était aux environs du 26 avril, puisque l'explosion de Tchernobyl, c'était le 26 avril, aux environs du mois d'avril, on a voulu faire un festival qui était à la fois festif et revendicatif, donc sous forme un peu de l'après-midi plutôt table ronde et rencontres débats, et le soir plutôt détente, musique, voilà, discussion, enfin donner un cadre convivial pour pouvoir aussi continuer la discussion. Et donc d'année en année, on a voulu reproduire cet événement Alors c'est vrai que l'année dernière et l'année d'avant, ça a été très compliqué. On était parti pour faire une édition en 2020, mais on n'a pas pu la faire, en 2021 non plus, pour les raisons que tout le monde connaît. Et cette année, contrairement à d'habitude, on faisait toujours notre festival au mois d'avril. Et cette année, on a voulu le faire avant, parce qu'on voulait aussi, nous, s'inviter dans la campagne électorale, parce qu'on s'est rendu compte que dans la plupart des candidats aux élections présidentielles, en fait, il y avait une surenchère nucléaire. Et donc nous, on a dit, si on veut permettre aux gens de s'informer et de pouvoir délibérément choisir un candidat en fonction de leurs convictions, il ne fallait pas attendre les élections pour le faire, il fallait le faire avant. Donc c'est pour ça que cette année, on a avancé notre festival au mois de mars. On l'a fait coller avec le 11 mars, qui est, lui, l'anniversaire de l'explosion de Fukushima, au Japon. Et donc, on a décidé de faire ça d'une autre façon, parce qu'on a été pris un peu par le temps. C'est vrai que 2 années sans festival, du coup, on était tombé un peu dans une certaine léthargie, hein, comme beaucoup de groupes. Donc, on a décidé de faire ça en 3 parties. Donc, 2 soirées avec un thème. Vraiment, conférence, débat, truc sérieux. On échange, on discute avec le public. Et puis un troisième moment fort pour plutôt faire la fête et continuer la discussion.
Profitons-en pour justement aller un petit peu plus dans le programme avec cette première soirée donc, qui sera proposée le 7 mars. Là vraiment dédiée à la sécurité des centrales nucléaires avec un journaliste qui a je crois fait une enquête spécifiquement sur la sécurité de ces centrales nucléaires.
Oui, et c'est aussi l'auteur du livre « Nucléaire, danger immédiat ». Donc c'est vrai que là, ça va être l'accent sur toutes nos inquiétudes. Enfin, nous, entre autres, j'espère qu'on va avoir des informations pertinentes, j'en doute pas. Mais et par exemple, moi, personnellement, ce qui m'inquiète dans la sûreté du nucléaire, c'est que déjà, c'est dangereux en tant que tel, mais de plus en plus sous-traité, quoi. Donc comme le maître mot de notre époque, c'est économie de personnel, économie d'humain, économie de tout. Et recours à la sous-traitance. On augmente les risques d'accident, quoi. On peut pas avoir, on forme pas de personnel compétent, donc on augmente tous ces risques, quoi, d'une manière inconsidérée. J'espère que j'ai une vision plus noire que la réalité, mais je crains que non, en fait. C'est vraiment, le profit. Hein, donc le profit à quelque chose qui est dangereux comme le nucléaire, c'est vraiment en opposition complète, quoi.
Est-ce que vous pensez que justement, malgré les catastrophes dont on a déjà parlé, même pour le plus récent, en tout cas, peut-être Fukushima, ça parle peut-être plus, en tout cas, plus récemment, malgré ça, c'est vrai que, il y a forcément l'actualité, une information en chasse une autre, et on peut oublier finalement ces risques.
On peut oublier ces risques parce que Fukushima, c'est loin, Tchernobyl, c'était plus près, mais c'était les communistes qui font pas comme nous, c'est pas bien, donc ça compte pas vraiment. Three Mile Island aux États-Unis, c'était encore plus vieux. Et chez nous, on a eu très chaud avec la centrale de Blaye. Au niveau de l'année, j'ai un petit doute, je ne saurais pas vraiment le dire, mais c'est dans les années 2000 où la mer raz-de-marée, ça a failli déborder, donc entraîner la réaction dans le cœur, quoi. Donc disons que jusqu'à présent, on a des incidents qui sont gradués sur des échelles, et entre certains incidents et l'accident, ça se rapproche, quoi. Donc voilà.
Donc ça, effectivement, vraiment sur l'aspect sécuritaire, en tout cas, ce sera le thème de la première soirée. La deuxième, vous aurez un invité, l'association Negawatt, qui viendra donc le 11 mars, comme vous le disiez, jour anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon. Alors là, l'idée, c'est de parler plutôt de « ok, pas de nucléaire, mais quelle solution ?»
C'est ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire, c'est bien beau de dire on veut pas du nucléaire et on veut sortir du nucléaire, mais on sait très bien que si c'est pas accompagné d'une politique ambitieuse de mise en place d'une autre forme d'énergie, ça marchera pas. Donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui peut présenter un scénario qui peut se passer du nucléaire.
Quand vous disiez justement au départ les différentes raisons pour lesquelles vous êtes contre le nucléaire, vous disiez inutile. Or aujourd'hui, on le sait, la majorité de l'électricité qui est produite l'est grâce au nucléaire. Donc même si l'objectif, là, comme selon le scénario de Négawatt, c'est effectivement de sortir du nucléaire, pour l'instant, vous estimez vraiment que c'est inutile aujourd'hui, le nucléaire ?
Déjà, il faut replacer les choses dans un contexte mondial. C'est-à-dire que pèse le nucléaire au niveau international ? Au niveau de la France, effectivement. Mais au niveau international, c'est beaucoup moins que ça. Ça doit représenter, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça doit représenter moins de 10%. Donc on doit forcément pouvoir s'en passer. On considère que c'est inutile parce que ça peut être remplacé par d'autres modes d'énergie. Alors déjà, il y a le débat sur la sobriété énergétique. Il y a sûrement beaucoup de choses au niveau de la société qu'on pourrait améliorer pour limiter les consommations énergétiques d'électricité. Et aussi, ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est-à-dire, il y a peut-être des choses, le truc classique, c'est les éclairages de nuit, par exemple, sur les autoroutes ou dans des villages où il n'y a personne, etc. C'est pas tellement, il y a de l'électricité, comment on l'utilise, c'est de combien d'électricité on a vraiment besoin. Quelle énergie réellement a-t-on besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre décemment, pour pouvoir vivre confortablement, sans se priver ?
Il ne faut pas oublier qu'au départ, EDF, c'était un service public. Et la fonction de service public, c'est d'amener aux citoyens ce dont ils ont besoin. Pas de vendre de l'électricité à tout prix. Et c'est un des gros reproches qu'on peut faire au nucléaire, c'est qu'une centrale nucléaire, quand on entend que pas de bilan carbone, enfin pas d'effet de gaz à effet de serre et tout ça, c'est complètement faux. Le nucléaire fait partie d'un ensemble de choses. Déjà, son extraction ne se fait pas à la pelle et la pioche. Se transporte sur des centaines de kilomètres. Les fournisseurs d'électricité d'uranium en France, c'est le Niger, c'est le Canada, l'Australie et le Kazakhstan. Tout ça, c'est pas juste à côté. Ce qui permet toujours à l'énergie nucléaire de dire qu'on est indépendant et autonome. Ben, je sais pas, c'est pas la France, ces pays. Donc, c'est déjà un premier mensonge. Et du coup, EDF s'est mis à... Quand vous allumez une centrale nucléaire, elle tourne. Vous pouvez pas baisser ou augmenter la puissance. Donc, c'est pas simple à gérer. Je dis pas que c'est simple, mais le fait est qu'ils se sont rapidement trouvés dans la situation de chercher des débouchés pour leur électricité. Donc voilà quoi, et c'est vrai que d'où le truc de l'été, la climatisation, ça c'est quand même un phénomène relativement récent, maintenant on ne parle plus que de climatisation partout.
On pourrait faire des logements qui soient écologiquement conçus, mais ça veut dire, ça demande une politique ambitieuse en termes de rénovation des bâtiments.
Et là, la fuite en avant, c'est, on va faire des voitures électriques, des bus électriques, des trottinettes électriques, tout électrique. Donc là, EDF, ils sont contents. C'est sûr que ça leur amène, de la clientèle. Mais pour moi, c'est pas le bon sens du problème. Le sens, c'est il faut qu'on apprenne à partager nos voitures. C'est long, ça ne se fait pas d'un battement, d'un claquement de doigts, mais remettre des transports en commun plus performants. La Mayenne est quand même assez moribonde au niveau des... Une fois qu'on n'est pas sur l'axe Paris-Rennes, c'est un peu compliqué. Même si il y a des efforts qui ont été faits au niveau des cars pour aller sur Mayenne, Château-Gontier, Cran et d'autres. C'est un petit effort, mais c'est pas suffisant.
C'est l'idée en tout cas aussi de cette conférence, c'est de peut-être justement donner des pistes et un peu d'espoir aussi.
Oui.
De se dire c'est possible en tout cas avec
Donner de l'espoir en disant aux gens qu'il y a effectivement des alternatives qui existent. Mais encore faut-il que les développer pour que les gens puissent s'en emparer.
Et c'est vrai qu'en vous écoutant, on peut se dire oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que moi, là, en auditeur, je peux faire ? Parce que ça paraît être des grandes décisions, des grandes orientations politiques.
Ne pas se tromper dans les gens qu'on va élire aux élections, premièrement. On est dans un groupe informel, mais on n'est pas politique pour autant. Très clairement, quand on regarde dans la liste des candidats actuellement en lice au niveau national, dans les plus connus, on va dire, il y en a 4 seulement qui se prononcent pour la sortie nucléaire. Il y a Hidalgo, il y a Jadot, il y a Mélenchon et il y a Poutou.
Et l'idée, c'est aussi justement de mettre, c'est ce que vous disiez au début de l'interview, de mettre aussi ce sujet au cœur des débats, parce que même s'il y a ces positions qui sont prises, c'est pas forcément le sujet qui ressort le plus en ce moment.
Non, et c'est dommage, parce que pour nous, c'est un sujet de C'est un sujet de société de très grande ampleur, en fait. On parlait tout à l'heure d'énergie, on parle de déplacement, on parle de choix de vie, on parle d'environnement aussi, parce que ne parlons pas de la pollution. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces millions de déchets nucléaires ? Il va bien falloir qu'un jour on s'en occupe quand même.
Par rapport au réchauffement climatique, c'est vrai qu'on sait que les énergies fossiles sont effectivement très créatrices de gaz à effet de serre, mais elles ont quand même quelque chose que je trouve admirable par rapport au nucléaire, c'est on respire sa pollution, quoi. Hein. Si on chauffe avec du charbon, on respire sa pollution, on a ses maladies liées à sa consommation. Alors que là, le nucléaire, c'est vraiment les gamins, c'est nos gamins, nos futurs gamins, les petits gamins de nos petits gamins, enfin, c'est eux qui vont payer pour notre confort, c'est eux qui vont se débrouiller avec ça.
Et leur festival Avant que ça pète donc commence dès lundi avec deux soirées ouvertes à tous au bâtiment 13 du quartier Ferrier à Laval. Conférence donc prévue lundi soir à 20h et vendredi prochain le 11 mars à 20h également. Et leur soirée revendicative et festive aura lieu le samedi 12 mars dès 19h avec trois concerts au programme. Alors eux ne seront pas présents mais on va les écouter tout de suite. Smokey Joe and the Kid avec Funny Guy.
Tommy, no, you got it all wrong, eh?
Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Funny how? What?
You're funny.
You mean, so, let me understand this, because maybe it's me. I'm a little fucked up. Maybe. I'm funny how? I mean funny like I'm a clown. I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how?
C'était Smokey Joe and the Kid, Funny Guy, c'est ce qu'on vient d'écouter, avec un final très bruyant. Je ne sais pas si vous avez entendu du coup Funny Guy, Smokey Joe and the Kid dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et on va passer comme chaque vendredi à notre chronique sport avec toi Steven, bonjour.
Bonjour Marie.
Et on va parler là aussi... des conséquences de l'actualité en ce moment avec cette guerre en Ukraine depuis une semaine maintenant avec l'attaque russe. Ça a aussi des conséquences sur le milieu du sport et c'est justement tout le sujet de ta chronique.
Et oui, des conséquences nombreuses alors que les combats font rage en Ukraine actuellement. Je propose un petit court détour pour faire un état des lieux justement de la mobilisation sans précédent du mouvement sportif mondial contre l'invasion russe orchestrée par le régime de Poutine. Alors, après avoir condamné l'attaque et regretté la rupture de la trêve olympique par la Russie, le Comité international olympique, le CIO, a finalement demandé aux fédérations internationales de déplacer ou d'annuler tous leurs événements sportifs prévus en Russie. Plus tôt, la fédération de ski avait déjà pris la même décision. Après avoir d'abord refusé, l'UEFA s'était alors réunie en urgence pour décider de transférer la finale de la Ligue des champions prévue à Saint-Pétersbourg au Stade de France. Un symbole fort à l'heure où Macron, justement, est président de l'UE. Jeudi, les pilotes Sébastien Vettel et Max Verstappen avaient déclaré leur intention de boycotter le Grand Prix de Russie. Dans la foulée, les dirigeants du championnat du monde de F1 et de la FIFA ont annoncé que le Grand Prix de Sotchi en septembre serait annulé. Du côté des sportifs russes, il est intéressant de noter que de nombreuses voix se sont élevées contre la guerre et de facto contre le pouvoir. Les joueurs de tennis, Rublev, Medvedev, Khachanov, Svitolina, ont pris position. Il est important d'avoir la paix dans le monde, de se respecter les uns les autres, explique Rublev, justement, récent vainqueur de l'Open de Dubaï de tennis. Un phénomène relativement nouveau dans la Russie où le risque pour sa carrière sportive, voire plus en cas d'opposition politique, est vraiment réel. Le hockeyeur Artemi Panarin, on avait fait exemple des frais. Après avoir appelé à la libération de Navalny début 2021, il avait été sujet d'un compromis et exclu justement de l'équipe nationale russe de hockey sur glace. De son côté, au niveau du basket, Tony Parker, le président du club de l'ASVEL et immense champion NBA, refuse justement que son équipe de basket aille disputer les matchs prévus en Russie pour l'Euroleague. De son côté, la FIFA brille à nouveau par son absence de réaction décisive début de la semaine dernière. Alors que les fédérations polonaises, suédoises et tchèques ont refusé de jouer les barrages en Russie pour la Coupe du Monde 2022, Gianni Infantino autorise les Russes à participer sous la bannière d'un pays neutre. Manchester United s'est séparé de son sponsor russe Aeroflot, tout comme Schalke et de Gazprom. La Fédération internationale de judo a décidé dimanche de priver Vladimir Poutine de ses titres de président honoraire et d'ambassadeur de la fédération. On va dire plutôt un symbole, honorifique. Le président de la Fédération française de volley a annoncé que les Bleus ne se rendront pas en Russie pour disputer les championnats du monde. Enfin, symbole fort, Sofia, la fille du président de Chelsea, a publié sur Instagram le mensonge le plus grand et le plus réussi de la propagande du Kremlin et que la plupart des Russes seraient solidaires de Poutine. Alors que les manifestations du peuple russe sont de plus en plus nombreuses pour dénoncer l'acte cruel de leur dictateur, hier, le Comité international paralympique a décidé d'exclure les sportifs russes et biélorusses des Jeux paralympiques qui commencent aujourd'hui. Un geste fort, mais qui pénalise de nombreux athlètes russes victimes de la décision de son gouvernement. Et oui Marie, il est déjà loin la belle image des Jeux olympiques où un athlète russe embrassait un champion olympique ukrainien après son titre olympique. À l'heure où les hommages de tous les sportifs ont poussé la voix de la paix, seuls les dirigeants internationaux et mondiaux seront les seuls décideurs de notre avenir. Preuve s'il fallait que le sport soit tous sauf apolitique. Plus que jamais avec ce conflit russo-ukrainien, le sport est devenu un vrai terrain pour les affrontements entre puissances. Pour terminer, Sergueï Stakhovski, l'ancien joueur de tennis ukrainien, est parti à Kiev rejoindre la réserve militaire pour défendre son pays face à l'invasion russe. Sergueï Stakhovski a laissé derrière lui sa femme et ses enfants. Une interview poignante que vous pouvez lire dans le journal L'Équipe aujourd'hui.
Merci beaucoup Steven pour cette chronique. Et encore, j'imagine que tu n'as pas pu tout citer parce qu'il y a beaucoup de conséquences forcément par ces derniers événements en Ukraine avec la Russie bien sûr. Merci beaucoup. On peut signaler aussi d'ailleurs même avec des incidences en local puisque l'équipe russe de Gazprom ne sera pas présente au mois de mai pour les boucles de la Mayenne. C'est une décision qui a été prise par l'UCI et donc suivie forcément par les organisateurs des boucles de la Mayenne. Et on te verra bien sûr, Steven, on t'entendra vendredi prochain pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup.
Merci Marie.
Et on va passer à notre cinquième et dernier épisode de notre feuilleton en Vimaine, avec son antenne lavalloise, bien sûr. L'entreprise d'insertion, vous le savez, propose la rénovation de gros électroménagers vendus à petit prix. Et le cœur de leur action, c'est aussi, forcément, vu que c'est une entreprise d'insertion, de remettre le pied à l'étrier à une dizaine de personnes éloignées de l'emploi, qui restent sur place donc entre 6 et 24 mois selon les profils. Alors justement, quels sont les profils de ces personnes accompagnées pour leur insertion? Réponse avec Nicolas Pellet, responsable de l'agence Envimène à Laval.
Dans le parcours d'insertion, on ne peut pas faire régresser quelqu'un. On est obligé de les faire évoluer. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous vous retrouvez avec une personne qui doute d'elle, qui ne sait pas où elle va, qui sait d'où elle vient, mais on a des personnes qui se retrouvent avec des incapacités physiques, qui ont fait le même métier toute leur vie, et qui au final, on leur a dit « Non, aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de le faire. » Et on leur interdit de le faire. Imaginez-vous la difficulté pour quelqu'un. C'est un deuil à faire. C'est un deuil de sa vie d'avant. Et nous, on est là pour les aider, non pas à se reconstruire, parce que la reconstruction, il y a des professionnels pour ça, mais au moins les aider à retrouver goût au travail, pour certains, et leur permettre de repartir du bon pied sur potentiellement sur un métier qui leur plaît autant, voire plus que celui qu'ils avaient avant. On a beaucoup d'échecs scolaires, d'abandon scolaire. Là, c'est les jeunes, ou alors des primo-arrivants, des personnes qui viennent d'arriver en France et qui ont besoin de rentrer dans le monde du travail. Pour les profils un petit peu plus âgés, on est dans la majorité sur des accidents de la vie, des accidents de travail qui les rendent une incapacité, des personnes qui ont vécu malheureusement des événements familiaux qui ont complètement perturbé leur vie et qui ont détruit aussi leur vie professionnelle. On a des personnes qui, suite à une maladie, ont perdu tout leur permis, tout leur CACES. Donc là, il faut rebondir. Et on est dans des phases du deuil, hein, très clairement. On a des personnes qui arrivent des fois dans des phases de déni complet, qui pour eux ça va passer, ça va repartir, alors que nous on a les comptes rendus de la médecine du travail qui nous dit non, c'est terminé, il ne refera plus ce métier. Et donc on a notre chargé d'insertion professionnelle qui a une dimension, c'est l'épaule sur laquelle on vient pleurer, qui est là aussi pour faire un travail de pédagogie. On n'est pas capable de lever tous les doutes, hein. On n'est pas capable d'aujourd'hui de refaire prendre confiance comme ça en un claquement de doigts à quelqu'un. Et on arrive à avoir des gens qui rentrent chez nous en rasant les murs et en se disant qu'ils sont bons à rien, et au final qui repartent de chez nous avec vraiment une motivation à avoir une nouvelle vie pro, enfin en tout cas professionnelle. Un chargé d'insertion professionnelle, donc Mickaël, qui est avec nous, qui lui va être l'oreille. Surtout l'oreille et aussi le levier. Donc dans un premier temps, il va définir avec eux quel est le projet pro. Alors c'est en aucun cas lui qui le fait, hein, qui le décide, c'est le salarié qui va se poser des bonnes questions. Donc Mickaël va les aider à se poser les bonnes questions, à éventuellement trouver dans leur vie ce qui pourrait les amener à un projet pro. Après, certains arrivent avec des envies depuis des années de faire tel métier. Et là, Mickaël va faire en sorte de trouver éventuellement la formation qui va bien. Dans un premier temps, on va essayer de les envoyer ce qu'on appelle en période de mise en situation en milieu professionnel, pour qu'ils se confrontent au métier vers lequel ils veulent aller, parce que parfois certains se font des idées plutôt biaisées, on va dire, de certains métiers. On sait très bien les secteurs qui sont porteurs dans la Mayenne, hein, on pourrait envoyer vers le nettoyage industriel ou des choses comme ça. Sauf que si on commence à réagir de cette manière-là, on va envoyer des gens dans une spécialité ou dans quelque chose qu'ils n'aiment pas, et potentiellement on les retrouve dans 2 ans en insertion à nouveau, parce qu'ils n'auront pas cette envie d'aller faire ce métier.
Avec une nouveauté mise en place depuis cette année seulement, des contrats passerelles de 6 mois maximum entre une nouvelle entreprise et donc Envimaine, entreprise d'insertion, avec une possibilité de formation avant un CDD long, voire même un CDI. C'est la fin donc de ce feuilleton autour de l'entreprise d'insertion Envimaine, avec différents épisodes que vous pouvez retrouver dans l'AJT du local de chaque jour de cette semaine. Et puis, comme depuis le début de la semaine, là aussi, on continue de vous annoncer le programme des semaines d'éducation contre les discriminations, avec ce soir une conférence de Pascal Blanchard autour de la colonisation et propagande la force de l'imaginaire, conférence proposée par la Ligue des droits de l'homme. Pascal Blanchard, vous l'avez peut-être déjà entendu sur d'autres médias, puisqu'il est historien spécialiste du fait colonial et donc vraiment spécialiste de cette question aussi. Soirée débat donc organisée à 18h ce soir à l'avant-scène à Laval. L'entrée est libre, mais il y a 150 places, donc je pense qu'il ne faut pas arriver trop tard. Et puis d'autres expositions toujours visibles, effectivement, ce week-end. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce vendredi. Mais restez avec nous, puisqu'à 20h, il y aura Passe-moi le thème. Avec le thème aujourd'hui, eh bien, ce sont les prénoms masculins commençant par la lettre E. J'imagine que vous avez déjà des idées. Et puis ce week-end, notamment parmi vos émissions, retrouvez à 11h samedi L'Enfant a des droits, à 13h Rock Dreams, à 17h Bud Station et à 22h Le Grand Convoi, beaucoup d'émissions musicales. Et puis dimanche à 19h plutôt littérature avec On lit quoi nous. Nous, on se retrouve lundi toujours au même horaire à 12h15. Je vous souhaite un très bon week-end.